Voilà, maintenant je vais passer au conférencier de ce soir, Gérard Leclerc. Gérard Leclerc est né en 1943, il est sociologue, il est professeur au département de sociologie de l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Pour ce qui est de son parcours, je mentionnerai qu'il a commencé par des études de philosophie à la Sorbonne. En 1969, il est devenu docteur en ethnologie de l'EHESS. Et depuis 1969, il est professeur au département de sociologie de l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Pour ses spécialités, ses domaines de recherche portent sur la fonction idéologique des sciences sociales, en particulier de l'ethnologie et des disciplines regroupées traditionnellement sous le terme d'orientalisme. Il est spécialiste de sociologie de la culture. Il s'interroge sur la place et la fonction des intellectuels dans les sociétés traditionnelles, mais aussi dans les sociétés modernes et postmodernes. Pour ce qui est de sa bibliographie, Gérard Leclerc a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales sur la mondialisation culturelle. Il collabore régulièrement à la revue Esprit et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Anthropologie et colonialisme, paru en 1972 aux éditions Fayard, L'observation de l'homme, paru au Seuil en 1979, Histoire de l'autorité, paru en 1996 aux Presses universitaires de France, La mondialisation culturelle, paru aux Presses universitaires de France en 1999, et Sociologie des intellectuels, paru cette année, en 2003, dans la collection Que sais-je, des Presses universitaires de France. Voilà, Gérard Leclerc, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Pour traiter de mon thème, je procéderai en deux moments principaux. Je commencerai par vous parler d'abord de la mondialisation culturelle, telle que je l'entends, en particulier la façon dont on peut la distinguer de la mondialisation économique. Et ensuite, j'essayerai de voir comment cette mondialisation culturelle a joué un rôle dans la naissance, disons, des intellectuels, du groupe des intellectuels et des discours qu'ils produisent, les savoirs, les sciences humaines en particulier, et les idéologies. Donc, vous voyez, on procédera dans deux temps, en commençant par des considérations relativement générales sur ce que c'est que la mondialisation culturelle, et puis, petit à petit, on va resserrer notre propos en voyant le rôle que peuvent jouer les intellectuels dans cette mondialisation aujourd'hui, eux-mêmes étant issus de ce processus lui-même. Quand nous parlons de mondialisation, nous pensons d'abord aujourd'hui à la mondialisation économique, autrement dit la formation du marché mondial, qui semble désormais atteindre son aboutissement avec une unification complète et universelle de la planète. Les nouvelles migrations internationales de capitaux, de marchandises, d'êtres humains l'expriment à leur façon. Mais à cette dimension proprement économique vient s'ajouter la révolution communicationnelle apparue dans le domaine des transports, des messages informationnels, proprement informationnels, les nouvelles, et des messages symboliques, les religions, les mythes, les fictions, les discours scientifiques, etc. Par ailleurs, l'économie est avant tout concernée par la production et la circulation des biens et services, et met le plus souvent entre parenthèses leurs caractéristiques spécifiques, disons, les plus spécifiques. Or, les biens et services culturels sont loués de propriétés telles qu'il est difficile de réduire la mondialisation culturelle à une simple modalité de la globalisation économique. Car ici intervient un autre type de valeur, la valeur symbolique, qui est totalement irréductible au prix marchand. C'est en prenant ces faits en considération que je vais donc aborder la question de la mondialisation culturelle. Alors je vais aborder un certain nombre de points dont je vais vous donner les titres à chaque fois que je ferai une transition. Alors donc tout d'abord je vais commencer par vous parler de ce que j'appellerai les deux aspects de la mondialisation culturelle. Et je dirais qu'il existe à l'intérieur de chaque société une coupure entre deux types d'éléments culturels très différents. Une frontière qui passe entre la religion et le monde quotidien, entre le sacré et le profane, entre l'art sérieux et le divertissement, entre la haute culture et la culture populaire. La séparation entre biens culturels sacrés, la religion, les croyances, les idéologies, et les biens culturels profanes, divertissement, fiction, évasion, semble bien être un phénomène universel. C'est pourquoi il importe, me semble-t-il, de distinguer deux sens du mot « culture ». D'abord, un sens qu'on peut dire proprement sociologique. La culture désigne alors les biens culturels, c'est-à-dire les objets d'art, les œuvres littéraires, et plus spécialement les œuvres audiovisuelles. en particulier les films, les œuvres musicales, les chansons, dans une moindre mesure, ainsi que les flux de circulation de ces biens à travers le monde sous la forme des industries culturelles qui sont des entreprises vouées au divertissement. Donc ça, c'est le premier sens du terme culture. Et d'autre part, il y a un sens que j'appellerais anthropologique, où la culture est entendue comme un système de valeurs identitaires et traditionnelles propres à un groupe. La culture désigne ici plus spécialement les discours religieux, éthiques, esthétiques, ou encore les valeurs centrales du groupe, les croyances fondamentales d'une société donnée. Au sens large, les cultures, on peut même dire que ce sont les systèmes sociaux, symboliques, économiques, politiques même, qui englobent les groupes humains plus ou moins importants, qu'on désigne par le terme de civilisation, quand ils sont vastes et durables, et surtout quand ils possèdent depuis des siècles, voire des millénaires, cette technique révolutionnaire qu'est l'écriture. Nous assistons depuis plusieurs décennies au développement à l'échelle mondiale d'une opposition entre deux types de biens culturels totalement différents. Les biens symboliques centraux et traditionnels, les religions, les valeurs éthiques et esthétiques, les rites sacrés, profanes, quelquefois, qui sont depuis toujours symboles d'identité locale. Et d'autre part, les biens culturels modernes, occidentaux, qui sont produits et diffusés par les masses médias d'autre part. Donc, il y a une coupure maintenant qui apparaît entre ces deux types de biens. Et nous pouvons noter la nouveauté radicale de notre époque dans le domaine des techniques de communication et la place centrale que tiennent au sein du monde culturel les masses médias audiovisuels. Avec ces médias mondialisés, l'équilibre des forces culturelles semble se modifier à la fois au profit du profane et du moderne. On pense d'abord bien sûr à Hollywood et à la présence mondiale de ses produits. Il est difficile en effet de ne pas remarquer l'importance croissante au sein de la société qu'on appelle dite moderne, post-moderne même, non seulement moderne mais post-moderne, des biens culturels profanes et modernes, voués au divertissement, à l'information, à la culture populaire, etc. Même si, bien sûr, les religions, sous la forme de croyances et de rites traditionnels, continuent à occuper une place importante dans la plupart des sociétés. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que les masses médias mondiaux sont devenus les acteurs dominants et principaux de la mondialisation culturelle ? Et d'où viennent-ils dans leur majorité ? Quels sont leurs effets ? J'aborderai, pour répondre à cette question, un deuxième point, qui est les rapports entre le centre et la périphérie dans le domaine culturel. Il y a un premier problème qu'on peut formuler de la façon suivante. La mondialisation culturelle, telle que je viens de la définir, est-elle réductible à l'impérialisme culturel ? Je répondrai que le concept d'impérialisme culturel implique l'existence de flux centrés, une exportation monopoliste de biens culturels médiatiques depuis le centre, l'Occident et surtout les États-Unis, vers la périphérie, ce qu'on appelait l'Orient autrefois, le tiers-monde, et même l'Europe de ce point de vue-là. L'hégémonie culturelle américaine est en ce domaine une réalité massive et incontournable. La langue anglaise, les médias globaux, CNN, les grands networks, qui sont désormais reliés par satellite et par câble, les multinationales de la distribution des biens culturels de divertissement, font que les cultures populaires locales tendent à être absorbées dans la plupart des pays, ou minorisées, marginalisées, par la culture des médias américains. Mais l'assimilation pure et simple de la mondialisation à une forme d'impérialisme culturel n'implique-t-elle pas une confusion entre la culture, telle que je l'ai définie au sens anthropologique, et les biens culturels marchands et modernes, autrement dit une réduction des biens symboliques au monde de l'industrie culturelle moderne? Il me semble que la mondialisation n'est pas simplement purement et simplement assimilable à la colonisation et à l'impérialisme, dont l'histoire commence dès la Renaissance, depuis plusieurs siècles, mais on peut la faire remonter à la Renaissance. Aujourd'hui, après les deux ou trois siècles de colonisation et d'hégémonie européenne, la planète semble entrer dans une ère nouvelle. Et nous devons tenter de comprendre le monde actuel dans sa réalité, dans sa nouveauté, dans sa brutalité, en même temps que dans sa complexité et dans ses promesses. Parler de mondialisation, c'est essayer de prendre la mesure de la mutation du monde actuel, véritable séisme historique, avant de se lancer dans les débats et les polémiques entre mondialistes et anti-mondialistes. La seconde question est la suivante. Quels sont les rapports entre les flux de la culture médiatique moderne et les échanges que j'appellerais intercivilisationnels? Il existe, me semble-t-il, une consommation différentielle et active, et non pas une réception passive et homogène, des biens culturels occidentaux, et en particulier américains. C'est du moins ce que suggèrent des enquêtes sur la réception et l'appropriation des programmes télévisés, en particulier des feuilletons américains, dont l'archétype fut Dallas, par des publics de nations et de civilisations différentes. Je renvoie, pour ceux qui seraient intéressés, à une enquête consacrée précisément à ce feuilleton et qui montrait qu'il fut décodé en son temps, car il est passé dans plusieurs pays, par des publics différents en fonction des valeurs propres à leur société d'appartenance. Donc, un même feuilleton est interprété en fonction des valeurs différentielles des sociétés. Tous les flux, qu'il s'agisse des biens culturels, traditionnels et modernes, ou des flux de personnes, migration, tourisme, ne vont pas dans le même sens. Ça, c'est un autre élément de relativisation, en somme, de l'impérialisme culturel. Il y a certes les flux culturels modernes occidentaux, mais il y a aussi des flux en sens contraire, qui sont d'abord humains, migration, mais aussi culturels, et qui portent sur des biens dits traditionnels, orientaux. On songe par exemple aux religions orientales, au yoga, au zen, etc. Ceci m'amène à vous parler, donc, après avoir relativisé la notion d'impérialisme culturel, relativisé et non pas nié, à vous parler de ce que j'appellerais le monde des civilisations. Et je dirais que si la mondialisation est plus que la simple occidentalisation du globe, si l'histoire du monde est désormais autre chose que l'histoire de la civilisation occidentale, c'est aussi parce que devient possible et nécessaire une façon d'envisager pour la première fois une véritable histoire universelle, c'est-à-dire une histoire de l'ensemble des civilisations humaines, une histoire de l'espèce humaine, une histoire de la planète. La naissance de l'archéologie, aux alentours de 1800, a rendu possible une connaissance des premières civilisations fondées sur des textes qui étaient restés jusqu'alors énigmatiques. Vous connaissez les travaux de Champollion. Et ensuite, cette découverte a ouvert le passé non seulement de l'Égypte, mais progressivement de tout le Proche-Orient ancien. De façon générale, le XIXe siècle, c'est le moment de la naissance des disciplines du temps très long, celui qui porte sur des siècles, des millénaires, même des millions d'années, par exemple la géologie, la paléontologie, la préhistoire, mais c'est aussi une tentative de compréhension de ce qu'on a appelé l'époque axiale. Bon, c'est un terme un petit peu barbare, pas très encore courant, mais qui désigne ces quelques siècles décisifs où se produisirent des bouleversements qui affectèrent dans leur fondement même les premières grandes civilisations de l'écriture, des textes, dans la seconde moitié du dernier millénaire avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros vers 500 avant Jésus-Christ, 600, 400 avant Jésus-Christ. C'est l'époque de Bouddha, c'est le moment où sont apparus des personnages vraiment très importants. Bouddha, Confucius, Lao Tzu, Zarathoustra, Socrate, les prophètes bibliques, des penseurs qui rompaient avec les civilisations antérieures par le fait qu'ils proposaient un message à vocation universelle. Et celui qui a proposé cette notion, le philosophe Jaspers, a considéré que c'était vraiment l'un des axes de l'histoire du monde, pour ne pas dire l'axe de l'histoire du monde. Donc, cette connaissance des civilisations axiales a commencé seulement, voici, un siècle. Auparavant, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Le savoir historique, donc, a pu s'élaborer à partir de ces innovations historiques, historiographiques, à l'échelle temporelle et spatiale de l'ensemble de la planète. Jusqu'alors, l'histoire, la science historiographique, était un savoir local. Il y avait des historiens grecs, il y avait des historiens arabo-musulmans, chinois. En Europe, il y avait aussi des historiens. Mais tous ces historiens se limitaient à leur propre civilisation. Dans cette optique, la mondialisation culturelle, c'est la mise en contact intime et l'interpénétration des civilisations, et non pas simplement la domination de la civilisation européenne sur les autres grandes civilisations. Au XIXe siècle, on opposait la civilisation et les barbares. Vous remarquez que je parle des civilisations au pluriel. La mondialisation, je le répète, elle signifie la multiplication des échanges, la révolution communicationnelle, mais aussi différentes formes d'interpénétration, par exemple sous forme des migrations, des diasporas, des métissages, des contacts culturels pluridimensionnels et pluridirectionnels. Quels sont ces groupes qui sont mis en contact? Quelles sont ces sociétés, ces humanités qui jusque-là étaient séparées relativement, qui étaient relativement ignorantes les unes des autres et qui entrent pour la première fois en relation étroite et en interpénétration réciproque? Ce sont les civilisations en tant que grands blocs culturels et historiques qui, dans la longue durée, ont partagé un système de valeurs, de croyances sacrées et de pratiques rituelles et quotidiennes. Les civilisations sont des groupes qui dépassent et englobent les ensembles sociétaux, que sont les tribus, les ethnies, les nations et les empires. Les civilisations s'incarnent, elles sont le plus souvent pluriethniques, supranationales, transimpériales. Elles s'incarnent quelquefois dans des empires-mondes, mais elles leur survivent quand elles disparaissent. Par exemple, l'hellénisme, la romanité, la chrétienté, l'Europe, l'islam, la Chine, l'Inde, le Japon. Donc, pour nous résumer, les civilisations sont des ensembles culturels de grande dimension, durables historiquement, porteurs de traditions écrites millénaires, sacrées et lettrées. Pour un homme de ces civilisations, le monde, c'était sa civilisation. Le reste n'existait pas vraiment, ou était surtout, pour les intellectuels de ces sociétés en particulier, le domaine des barbares, des infidèles, des étrangers, impurs, dangereux, méprisables, etc. Et c'est ici que la mondialisation vient jouer un rôle perturbateur, porteur de mutations gigantesques, que certains peuvent vivre sur le mode de l'angoisse et de la haine face à des forces perçues comme menaçantes, voire maléfique. Donc, je passe à une mutation, si vous voulez, que j'appellerai de façon un petit peu métaphorique, pour faire un jeu de mots, des civilisations monde à la mondialisation des civilisations. Un débat s'est élevé récemment à propos de la question de savoir quand a commencé la mondialisation. Certains auteurs la font remonter à la Renaissance, aux grandes découvertes, d'autres au XIXe siècle, en faisant référence à la révolution industrielle. D'autres encore à la fin du XXe siècle, alors là on est vraiment une période récente, faisant référence alors à la révolution informationnelle. Quoi qu'il en soit, il est indéniable, me semble-t-il, que le processus a connu une mutation depuis que l'Europe est entrée, depuis les grandes découvertes, en contact continu et dense, souvent violent, avec l'ensemble des terres de la planète, avec la totalité donc des hommes Autrement dit, même si la mondialisation est ancienne, elle a connu, depuis la Renaissance et surtout depuis la fondation des empires européens, un changement qualitatif. On peut en ce sens définir l'histoire moderne comme la découverte du monde par l'Europe, une préhistoire de la mondialisation, en quelque sorte. Restée longtemps, disons jusqu'au XVIIe siècle, une civilisation parmi les autres, l'Europe a dominé la planète pendant 2 ou 3 siècles, et elle est restée jusqu'en 1945, disons, pour symboliser, au centre du réseau mondial. Elle seule a été en contact dès la Renaissance, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, avec tous les autres continents. À cet égard, 1800, on peut dire, est une date charnière. C'est le moment de l'expédition d'Égypte par Napoléon, par Bonaparte, et c'est le début de l'Empire anglais des Indes, précisément en réaction contre l'entreprise bonapartiste. C'est la mise en contact économique et politique asymétrique, fondée sur la domination européenne, qui a eu des effets intellectuels et idéologiques fondamentaux dont je vais vous parler maintenant. Et on peut dire que d'une certaine façon, ce qui est en jeu ici d'abord sur le plan culturel, ce n'est rien moins que la naissance des idéologies sécularistes et des intellectuels d'une part, celle des sciences humaines d'autre part. Bien entendu, il y a un lien entre ces trois éléments, idéologie, intellectuelle, sciences humaines. Alors, je commencerai par dire 2 mots de l'origine des sciences sociales. Les chercheurs européens, qu'on peut appeler les premiers observateurs de l'homme, je le mets entre guillemets, pour faire référence au titre d'un de mes ouvrages, se sont appuyés pendant la période coloniale, sans culpabilité majeure, sur les assises que leur fournissait la métropole. Et ils disposèrent dans ces conditions d'une large base comparative. Le rapport proprement informationnel est désormais immense. Mais aujourd'hui, nous sommes conduits à nous poser un certain nombre de questions embarrassantes sur les sources impures, en quelque sorte, des sciences de l'homme. C'est dans ce cadre que se situe le débat, le seul que j'aborderai ici, par manque de temps surtout, le débat sur l'orientalisme. S'agit-il simplement d'une idéologie européocentriste, ou bien sommes-nous en face de la préhistoire de véritables sciences humaines, de savoirs authentiques? Et donc la question que je me pose maintenant, c'est la suivante. Les sciences humaines sont-elles en fait les idéologies du pouvoir? Toutes les cultures construisent une vision intellectuelle, à la fois empirique et mythique, sur les hommes qui les entourent. Toutes les civilisations élaborent, par la voix de leurs intellectuels, là je mets intellectuel entre guillemets, un discours sur l'autre, sur les autres hommes, les étrangers, perçus en général comme étranges, comme bizarres, inférieure, méprisable. L'Europe, de ce point de vue-là, n'a pas échappé à la règle. L'ethnocentrisme ne lui a pas été épargné. À l'époque coloniale, elle appelait indigènes tous les colonisés, tous ceux qui n'étaient pas des Européens, entre guillemets, c'est-à-dire des citoyens des métropoles coloniales. Mais à ce chauvinisme, désormais peu glorieux, elle donna un tour particulier en élaborant, sur des bases nouvelles, une nouvelle forme un ethnocentrisme, je dirais, sublimé en quelque sorte, qui prétendait prendre la forme de savoir purement empirique et objectif, pendant qu'elle mettait à profit sa supériorité technologique et économique. L'Europe produisait en effet des formes totalement nouvelles de discours sur l'autre, sur les sociétés différentes, sur les sauvages, ceux qu'on appelait les sauvages, qu'on a appelé ensuite les primitifs, ceux qu'on a appelé les orientaux pendant longtemps. Maintenant, on ne dit plus ça, on dit les asiatiques, et puis on est plus spécifique. Pour nous en tenir à ces orientaux, entre guillemets, apparurent donc à l'intérieur de ce savoir englobant qu'on appelle l'orientalisme, des disciplines spécialisées, telles que la sinologie, l'islamologie, l'indologie, etc. Et c'est sur la base de ce sentiment de supériorité morale et intellectuelle, assis, appuyé sur une progressive domination militaire, politique, que se sont développées ce que nous appelons les sciences sociales et humaines. Mais depuis bientôt 3 décennies, ces discours, ces savoirs, se remettent en question, en interrogeant leur historicité, qui, elles le reconnaissent bon gré mal gré, trouve ses origines et son ampleur dans la domination coloniale de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que, pour autant, elles sont devenues des savoirs neutres et objectifs, ou bien est-ce que on peut dire qu'elles restent encore des discours ancrés dans le pouvoir? Elles représentent au mieux une herméneutique dont il faut reconstituer ou déconstruire, comme disent les spécialistes dans leur jargon, les composantes inégalitaires et historiques, au pire les éléments du complexe savoir-pouvoir dont parlait le philosophe Michel Foucault, par quoi ces discours seraient définitivement disqualifiés dans leurs prétentions universalistes et transhistoriques. On peut dire que l'un des enjeux majeurs de notre époque, qui a été mis en évidence par le remous autour du livre d'un auteur qui s'appelle Édouard Saïd, qui a publié un livre sur l'orientalisme, l'un des enjeux, donc, c'est de savoir si, compte tenu du contexte historique, économique et politique de l'élaboration de ces discours, ces derniers sont de purs commentaires idéologiques et fantasmatiques de l'ethnocentrisme occidental, ou bien s'ils constituent le point de départ utile et même nécessaire de véritables sciences humaines universelles, ayant une validité transhistorique et transculturelle. Ma thèse personnelle, si je peux me permettre de vous la donner, comprend 2 points distincts. Premièrement, il est impossible de comprendre ces discours sans tenir compte des conditions historiques et géopolitiques de leur élaboration. Et afin de suggérer que je ne tombe pas dans un angélisme naïf, oublieux des violences physiques et symboliques où s'originent ces discours, je me permettrai de faire référence à mon cas personnel, pour dire simplement que dans le petit livre que j'ai écrit quand j'étais un très jeune chercheur, j'ai tenté de montrer que les effets idéologiques du contexte colonial sur la nature de l'anthropologie africaniste. L'ethnologie, en effet, comme l'orientalisme, fut d'abord et avant tout un instrument des puissances coloniales. C'est vrai que le savoir fut et reste souvent un instrument du pouvoir. Ça, c'est le premier point. On pourrait développer, bien entendu, cette thèse. Je ne renie absolument pas cette thèse. Mais, en même temps, si les sciences sociales tirent leur source d'un état historique des pouvoirs, en l'occurrence le pouvoir colonial, si l'on rencontre en leur sein, et surtout dans leurs archives anciennes, de nombreuses fausses notions, des concepts illusoires, des problématiques qui nous paraissent aujourd'hui biaisée idéologique, elle constitue cependant les matériaux que les chercheurs de demain devront utiliser pour élaborer une authentique histoire universelle, une véritable anthropologie. Les grands ethnologues, les grands orientalistes ne furent pas principalement de grands prédateurs culturels, des serviteurs complaisants de l'impérialisme. Ils furent aussi et surtout de véritables médiateurs, des passeurs culturels, des points de passage intercivilisationnels. Autrement dit, il me semble qu'il existe une déconnexion possible des savoirs et des pouvoirs, un idéal d'objectivité et de neutralité qui peut au moins être visé, quelquefois atteint, moyennant une archéologie, pour employer encore un terme un peu technique, et une herméneutique. Disons plus simplement une interprétation historique des discours et de leurs sources. Nous pouvons maintenant désormais entrevoir une véritable anthropologie mondiale et cosmopolite, transcivilisationnelle, c'est-à-dire universelle. On pourrait dire que la sociologie de Weber, par exemple, au début du XXe siècle, avec sa visée comparative, qui faisait appel aux travaux des sinologues, des indologues, et de tous ses spécialistes, fut la première à dépasser réellement le cadre étroit de l'eurocentrisme. Il y a une autre dimension du statut problématique des sciences humaines et sociales. C'est le suivant. Au sein des sciences humaines, en effet, la critique historique, en particulier l'histoire comparée des religions, la philologie, la sociologie religieuse, ont pris de façon privilégiée comme objet d'enquête les textes sacrés de ces civilisations dont je parlais. Non seulement la Bible, bien sûr, qui est notre civilisation, entre guillemets, mais le Coran, les Védas, livres sacrés hindous, les textes confucianistes, etc., les textes bouddhistes. Donc cette critique historique, elle occupe une place vraiment centrale. Et l'historicisation, qui implique nécessairement, d'une certaine façon, une démythologisation des traditions religieuses par les savoirs, on peut se demander si elle ne menace pas les civilisations dans leurs fondements sacrés, qui se veulent le plus souvent transhistoriques. Les sciences humaines, alors, sont-elles par nature désacralisantes et donc, au sens étymologique, profanatrices? Une nouvelle question se pose alors. Les sciences humaines sont-elles appropriables, telles quelles, sans difficultés épistémiques, éthiques, politiques, par les civilisations extra-européennes? Et c'est ici qu'intervient le rôle des intellectuels, qui sont des chercheurs, mais qui sont aussi des idéologues, qui sont des savants, mais qui sont aussi des acteurs engagés. Et donc, maintenant, on en arrive, si vous voulez, au point central de mon exposé, à savoir la situation spécifique des intellectuels non occidentaux. La mondialisation culturelle ne concerne pas seulement, en effet, la naissance des sciences humaines dont je viens de parler, elle concerne aussi la naissance de l'intelligentsia. Le 19e et le 20e sont le moment de la production des premières idéologies modernes, ces discours globaux, mais séculiers, c'est-à-dire non religieux, fondés sur les savoirs plus que sur les mythes traditionnels, et qui prirent dans l'Europe du 19e siècle, c'était du moins l'illusion que pouvaient avoir les intellectuels européens, le relais des traditions mythiques et religieuses. Je pense en particulier à ces discours tels que le libéralisme, le nationalisme, le socialisme, le communisme, etc. À cet égard, il importe de faire référence à ce qui semble être, du moins au premier abord, une coupure entre l'Orient et l'Occident, ou si vous préférez, entre l'Europe et le reste du monde. Ceci ayant bien entendu à voir avec le statut des intellectuels. La modernité européenne est endogène. Ceci veut dire tout simplement qu'elle est née au sein de l'Europe. La modernité est née au sein de l'Europe. Elle est le résultat d'un processus de sécularisation qui fut, dès ses origines, intérieur à la société et à la culture européenne. C'est une mutation qui, comme je l'ai dit, a commencé dès la Renaissance, qui s'est réforme et qui a atteint son plein développement avec l'époque des Lumières. Tandis que la modernité extra-occidentale, je mets un singulier provisoirement peut-être, ou les modernités non-européennes se sont formées au contact et en réaction au contact de l'Europe, de sa puissance, de sa technologie, de sa pensée, de sa culture. Et c'est sur ces bases historiques qu'a pu apparaître un débat qui leur est spécifique concernant les rapports entre ce qu'on appelle la tradition et la modernité. De ce point de vue, le statut des intellectuels, de leurs savoirs et de leurs idéologies hors d'Occident, n'est pas strictement identique à celui qu'on rencontre en Europe, bien que dans les deux cas, il semble obéir à une seule et même logique historique. L'intellectuel européen est, dans une large mesure, l'héritier du clerc médiéval, même s'il est aussi une figure de mutant, né avec la sécularisation des croyances, et en particulier des croyances religieuses. L'intellectuel européen, c'est un fils ingrat, parricide selon certains, qui est à la fois le continuateur et le négateur de, disons, de l'intellectuel traditionnel, celui que j'appellerais le lettré classique, le clerc médiéval, le clerc religieux. Les civilisations non occidentales avaient possédé, tout comme l'Occident, leurs lettrés, leurs clercs, ou, si vous préférez, leurs intellectuels traditionnels. Et ces intellectuels étaient porteurs avant tout et garants des traditions religieuses et classiques. L'intellectuel moderne, autrement dit l'intellectuel proprement dit, car vous voyez que j'assimile l'intellectuel à l'intellectuel moderne, autrement dit, je considère que la figure de l'intellectuel est une figure moderne, que c'est métaphoriquement que l'on parle d'intellectuel antérieurement, à, disons, en Europe au XVIIIe siècle et dans les sociétés extra-occidentales antérieurement à la colonisation. Donc, l'intellectuel moderne n'apparaît en Orient, pour employer disons, une expression plus, moins connotée en Asie, mais dans d'autres pays extra-européens, seulement lorsque, avec l'intrusion de l'Occident, il s'acculture au savoir et aux sciences modernes, et en particulier aux sciences sociales, à l'histoire, aux idéologies qui légitiment les mutations et les bouleversements de tous ordres que, précisément, la mondialisation résume en quelque sorte. L'intellectuel européen est un héritier. L'intellectuel non occidental se situe au croisement d'un héritage culturel et d'un traumatisme historique. Vous voyez que ça fait une différence non négligeable. Et ceci explique que les premiers grands intellectuels asiatiques eurent à gérer une situation inédite, celle où leur civilisation, fondée sur une tradition religieuse millénaire, était appelée à coexister avec une civilisation extérieure, étrangère, la nôtre. Étrange, mais dominante, et ayant apparemment une portée et une valeur universelles. Ces intellectuels donc, qui apparurent à ce moment-là, donc, c'est-à-dire en gros au XIXe siècle, au moment où se mettaient en place les empires coloniaux, se distribuèrent alors selon un continuum idéologique situé entre deux pôles extrêmes, le nationalisme et l'occidentalisme, le traditionnalisme et le modernisme, ce qui donna lieu à des combinaisons assez complexes, nationalisme-moderniste, nationalisme-traditionaliste, traditionalisme-occidentalisant, moderniste-anti-occidentaliste, etc. Aujourd'hui, on assiste, alors un nouveau point que je vais aborder maintenant, à ce que j'appellerais la mondialisation de l'intelligentsia. Donc, après avoir parlé de la situation spécifique des intellectuels non occidentaux, je voudrais aborder un moment où, le moment actuel, la phase actuelle, celle de la mondialisation, où l'intelligentsia devient, en quelque sorte, un univers toujours diversifié, bien sûr, par ses origines historiques, mais aussi unifié par ses références. J'ai dit tout à l'heure que les intellectuels extra-occidentaux étaient apparus au moment où les empires coloniaux se mettaient en place. Et ça veut dire que l'intellectuel, c'est le produit, le plus souvent, intellectuel extra, non occidental, d'une éducation occidentale. Les premiers intellectuels non occidentaux, c'est des gens qui ont été formés dans des universités fondées par les Européens dans les grandes villes de leurs empires. En Inde en particulier, les grandes universités de Calcutta, Madras, Bombay, etc. Donc avec cette mondialisation de l'intelligentsia, alors inutile de vous dire que c'est ces intellectuels qui, au départ, au XIXe siècle, se comptaient sur les doigts de la main, si j'ose dire. Ensuite se comptèrent par dizaines, et maintenant ils se comptent par milliers, par dizaines de milliers. L'intelligentsia sécularisée et occidentalisée et mondiale et compte un très grand nombre d'individus. Il en résulte par conséquent une complexité des flux qui parcourent le monde culturel actuel. Il existe dans les pays non occidentaux des effets directs de l'occidentalisation, le libéralisme, la démocratie, le sécularisme, mais aussi des effets indirects qui prennent la forme de courants de contre-sécularisation et d'idéologies qui vont précisément à l'encontre du processus qu'on vient de voir, à savoir à l'encontre de cette acculturation occidentalisante, à savoir des idéologies nationalistes et identitaires. En Occident, la modernité, pourrait-on dire, est un produit local. En Orient, elle a été, on vient de le voir, un produit d'importation, le résultat d'une appropriation, d'où des déformations, des distorsions, voire des refus, quelquefois larvés ou inconscients, mais le plus souvent assumés et revendiqués. Tandis que la modernité européenne avait abouti dans ses formes extrêmes à des idéologies agnostiques, voire nihilistes, athées, pour employer un terme simple et clair, elle produit aujourd'hui dans les milieux intellectuels de l'Inde ou de l'islam, par exemple, aujourd'hui, peut-être demain du Japon ou de la Chine, des formes de contre-sécularisme et même quelquefois des formes de désécularisation, qu'on appelle aujourd'hui d'un terme peut-être simplificateur, des fondamentalismes, des intégrismes, etc. Et par conséquent, on peut se demander si la forme prise par la modernité en Europe est bien universelle, tout au moins dans ses aspects culturels et idéologiques. L'universalisation des technologies et des sciences n'aboutit pas toujours ou pas nécessairement à celle du sécularisme, du libéralisme à l'européenne ou à l'américaine, et de façon générale à l'universalisation des idéologies. Cela ne signifie pas un choc inévitable et frontal entre des civilisations monolithiques, pas nécessairement des guerres totales entre grands blocs culturels. Cela signifie plus vraisemblablement des dialectiques complexes entre le soi et l'autre, entre la tradition et la modernité, entre les intelligentsias et les peuples, entre les autoritarismes identitaires et les formes démocratiques, entre les conservatismes et les radicalismes. Ceci à l'intérieur même de chacune des civilisations du monde, condamnées désormais à vivre ensemble d'une façon ou d'une autre, à coexister ou à disparaître, pour employer des grands mots. Autrement dit, la thèse du choc des civilisations, dont a parlé un auteur qui s'appelle Huntington, n'a rien d'une évidence. Elle est biaisée, et peut-être d'abord par ce qu'on pourrait appeler son essentialisme culturel et historique, c'est-à-dire le fait qu'elle oublie que chaque civilisation est porteuse d'une pluralité de tendances et de mouvements. Les intellectuels sont-ils des médiateurs ou des provocateurs? Au départ, j'avais intitulé mon intervention « La mondialisation culturelle et les médiateurs intellectuels ». Et donc, je répondais à cette question en disant que c'était plutôt des médiateurs. Mais là, en l'occurrence, je pose la question « Sont-ils les médiateurs ou les provocateurs ?» On va voir qu'effectivement, la question n'est quand même pas purement rhétorique. Sont-ils des agents de la paix ou des fauteurs de guerre ? Je dirais qu'ils sont du moins les constructeurs et les destructeurs de l'identité collective. Ils sont à la fois les constructeurs et les destructeurs de l'identité collective. Constructeur, en tant qu'idéologue, du sens de l'appartenance individuelle et collective sur la base de mythes fondateurs et légitimateurs de la communauté, du groupe, de la société. Et ils sont aussi destructeurs en tant que chercheurs, en tant que critiques des illusions d'une vérité historique transcendantale, donc mythisée ou idéologisée, souvent sacralisée de cette identité. Il y a des différences importantes entre le chercheur et l'idéologue, entre la science et l'idéologie. La première suppose le consensus de la communauté scientifique internationale, tandis que la seconde suppose le débat dans un espace public devenu mondial, c'est-à-dire intercivilisationnel. Mais un point les rapproche néanmoins, ou devrait les rapprocher, c'est le recours au débat pacifique et à la libre critique plutôt qu'à la violence et à l'anathème. Le débat entre occidentalistes et traditionalistes, entre partisans de l'ouverture et intégristes ou nationalistes, ces débats portent dans une large mesure sur la nécessité, sur la nature de l'appropriation des idéologies sécularisées et agnostiques venues d'Occident, autant, sinon plus, que sur la question de la nature du marché mondial et du libéralisme économique. Toutes les grandes civilisations asiatiques ont tenté de s'accommoder de la modernité occidentale d'une façon qui tentait de préserver à la fois l'ouverture nécessaire et une certaine forme d'identité historique. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il existe une responsabilité centrale des intellectuels, journalistes, historiens, sociologues, etc., qui sont en quelque sorte les médiateurs de la mondialité. Un intellectuel, pour reprendre la définition de Sartre, c'est quelqu'un qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Je cite là. Naguère, un intellectuel, l'intellectuel européen, faisait porter sa curiosité indiscrète sur les affaires intérieures, entre guillemets, de son pays. Sur les choses qui n'allaient pas, sur sa, par exemple les guerres coloniales de son pays. C'est le cas de Sartre, par exemple. C'est le cas de Chomsky pour la guerre au Vietnam, etc. Désormais, avec l'appui des nouvelles technologies d'information et avec les modalités du transport aérien, l'intellectuel s'intéresse à ce qui ne le regarde pas, même que lorsqu'il s'agit de choses, institutions ou événements, qui se passent à l'autre bout de la planète. Et d'ailleurs, nous le savons tous, il n'y a plus d'autre bout de la planète. Du moins, beaucoup d'entre nous y sont allés. Il suffit de quelques heures de jet. Donc, ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour l'intellectuel. Et ce qui est vrai pour l'intellectuel européen ou américain l'est aussi pour l'ensemble des intellectuels du monde. Les intellectuels sont à la fois membres à part entière de leur société d'origine ou d'appartenance et citoyens du monde, en tant qu'ils sont concernés par les affaires de l'humanité tout entière. Et alors, ils peuvent se faire critiques de leur propre gouvernement, de leur propre société, de ses valeurs, de ses illusions et de ses mythes. Et c'est en quoi ils sont fidèles à la vocation de l'intellectuel générique, en quelque sorte, à savoir le souci de l'universel. Nous devons considérer comme possible, comme nécessaire, une rencontre, une confrontation pacifique dans ce territoire neutre, entre guillemets, qu'est la communauté scientifique internationale, les universités, les instituts, les congrès, etc., entre les intellectuels orientaux, l'Orient tendant en quelque sorte la main à l'Occident, et les orientalistes occidentaux, l'Occident tendant la main, entre guillemets, à l'Orient. Ceci est d'autant plus nécessaire et utile que, en réalité, maintenant, les choses connaissent un développement nouveau avec ce que j'appellerais les hybridations culturelles, les hybridations internationales, internationales, on peut dire, mais j'allais dire surtout intercivilisationnelles, c'est-à-dire le caractère métis, sur le plan culturel, bien sûr, des grands intellectuels contemporains issus du Sud, qu'ils soient indiens, chinois, arabo-musulmans, montre bien le caractère obsolète d'une théorie essentialiste des civilisations, et donc le caractère problématique de la guerre des civilisations. D'autant que cette avancée de l'Orient vers l'Occident, réalisée par les intellectuels orientaux qui viennent désormais enseigner dans les universités américaines et européennes, est complétée symétriquement, en quelque sorte, par les travaux de ces métis d'un autre type, que sont les nouveaux orientalistes européens et américains, c'est-à-dire des sociologues, des philologues, des historiens européens qui vont étudier ces civilisations orientales et quelquefois même y travaillent et quelquefois y enseignent pendant certaines périodes et de toute façon ensuite reviennent pour en quelque sorte faire le pont entre ces deux mondes désormais sans coupure réelle. Pour terminer, je dirais deux mots sur les enjeux de la mondialisation culturelle tels que je les vois. Et je noterai que deux tendances contradictoires caractérisent l'éthos des intellectuels. L'éthos, c'est-à-dire le mode de vie, le mode de pensée des intellectuels. D'une part, l'esprit de sérieux qui peut mener au respect inconditionnel de l'orthodoxie, voire à sa construction, car l'intellectuel est souvent proche du politique et donc du pouvoir. Donc cet esprit de sérieux qui peut mener non seulement au respect du pouvoir, mais aussi au fanatisme, d'une part. Et d'autre part, une autre tendance qui est à l'opposé, et qui est l'ironie critique, celle qui caractérisait Voltaire, dit-on, et dont fit preuve à son corps défendant Salman Rushdie quand il écrivit son roman sur les versets sataniques. En somme, l'esprit de jeu avec les règles qui peut se faire esprit de dérision et de profanation, en tout cas aux yeux de certains, et en particulier aux yeux des croyants. L'international, en somme, l'international intellectuel ne risque guère, si on tient compte de cet aspect des choses, de se laisser aller à la pensée unique. Mais elle peut, en outre, moyennant des conditions qu'il est permis de considérer pour le moment comme utopiques, devenir le lieu privilégié de l'exercice de la tolérance, qui est la plus politique de toutes les vertus, ou encore la pratique qui se situe au croisement de l'éthique et du politique. L'international et l'intellectuel, par-delà les dissensions qui la traversent, et quelles que soient ces divisions, est une des expressions privilégiées de la culture mondialisée. Pour que le choc des civilisations ne devienne pas une prophétie autoréalisatrice, le premier devoir des chercheurs et des intellectuels est de déconstruire le concept de civilisation et d'approfondir la notion de culture. Il est aussi de contribuer à montrer, par leur propre dialogue transculturel, que l'humanité se mondialise sur le plan des valeurs scientifiques, mais aussi éthiques, ou, si l'on préfère, qu'une mondialité cosmopolitique, je dis bien cosmopolitique et non pas simplement cosmopolite, est possible, car le cosmopolitisme avait une dimension surtout culturelle, tandis qu'il s'agit de penser la mondialité dans la perspective du politique, et même, pourrait-on dire, du géopolitique. Je crois que j'aurai encore deux ou trois mots à dire, mais pratiquement j'ai épuisé non seulement mon temps de parole, mais pratiquement mes mots. Donc, je crois que je vais en rester là. je vais en rester là et mettre fin à mon intervention.
Merci beaucoup.
Je voulais vous demander, vous avez parlé de culture au sens anthropologique du terme, vous avez parlé du rôle des sciences sociales et des intellectuels, vous avez parlé des industries culturelles, d'ailleurs en insistant sur leur caractère de médias de masse, ce qui me paraît un petit peu réducteur, parce que les industries culturelles ont aussi un rôle artistique évident, et je crois que toutes les industries culturelles ne sont pas à mettre sur le même plan. Mais au fond, je trouve que dans tout ce que vous avez dit qui est très intéressant, on ne croise jamais la figure de l'artiste. Et au fond, je voulais un peu vous interroger là-dessus, c'est-à-dire comment vous voyez le rôle de... Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une communauté universelle artistique? Est-ce qu'on peut parler d'œuvres qui sont potentiellement universelles dans cette mondialisation culturelle?
Oui, c'est vrai que... J'ai été obligé de faire vite sur certains plans, hein. Mais si j'ai bien compris l'essentiel de votre question, parce que j'ai malheureusement un problème d'audition, mais enfin j'ai cru comprendre que vous me demandiez quelle était la place des artistes dans le monde intellectuel, en gros, hein. Et si les artistes appartenaient, on peut considérer qu'ils ont une place importante dans ce monde. Bien sûr qu'ils ont une place importante dans le monde des intellectuels. J'ai dit tout à l'heure que les intellectuels, c'était des gens qui... J'ai essayé de donner une définition pour dire que les intellectuels, c'était des gens qui produisaient ou qui transmettaient des systèmes symboliques, hein, culturels et symboliques. Il est bien évident que les systèmes esthétiques font partie des systèmes. C'est un élément important des systèmes symboliques. Et que les arts en sont un élément central. Les artistes sont des intellectuels, et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, qui sont les grands intellectuels français d'aujourd'hui, comment peut-on savoir qui sont les grands intellectuels français d'aujourd'hui? Eh bien, un des critères, c'est de regarder les gens qui signent des pétitions publiques. La signature des pétitions, bien sûr, l'écriture d'articles dans la presse, c'est important, mais la signature de pétition est un des critères, à mon avis, c'est historiquement vrai, de limitation du groupe des intellectuels. Donc, si on regarde quelles sont les professions qui sont représentées parmi les signataires de manifestes, de pétitions, etc., eh bien, les artistes tiennent une place de plus importante. Aujourd'hui, les cinéastes, les peintres... ce sont eux qui sont les plus actifs dans les mouvements intellectuels, je dirais, hein. Beaucoup d'écrivains sont silencieux, mais les metteurs en scène, les acteurs, alors des gens comme Depardieu, des gens comme Tavernier, sont des grands intellectuels, je dirais.
Donc, pour revenir sur la question de la culture dans la globalité et des intellectuels, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une mutation... au niveau culturel aussi bien qu'ailleurs. Bien entendu, les intellectuels jouent un rôle à ce niveau-là, parce que finalement, vous faisiez allusion finalement à l'atomisation des différentes cultures en fonction des civilisations. Aujourd'hui, en quelque sorte, on peut dire que c'est une sorte de molécule qui se construit. Mais justement, toute cette mutation, ces intellectuels jouent un rôle d'avant-garde par rapport à ça, nous créer des nouvelles valeurs par rapport à ces mutations. Et la question que je vous pose, c'est justement quand on voit que, par exemple, aujourd'hui, la Terre qui était divisée devient unité parce qu'on se tourne vers l'espace, comment joue le facteur temps dans cette mutation et dans, la rapidité, si je peux parler de rapidité, avec laquelle les intellectuels vont peut-être fonder ces nouvelles valeurs?
Alors, j'essaye de résumer votre question de la façon suivante. Le rôle des intellectuels dans la création de nouvelles valeurs, c'est bien ça? Il est bien évident que les intellectuels font partie de ce qu'on appelle l'avant-garde, hein, si vous voulez, enfin, en relativisant quand même les choses. Disons que, dans ce que j'ai dit, implicitement, j'ai quand même tenu compte de ce que j'appellerais l'élite des intellectuels, si vous voulez. Les intellectuels, c'est quand même un groupe assez différencié, assez large, assez hétérogène, assez stratifié. Hein. Il y a une hiérarchie quand même très grande, hein, entre la haute intelligentsia et ce que certains appellent la lumpen intelligentsia, hein, c'est-à-dire la basse intelligentsia. Donc, si vous voulez, donc pour relativiser, donc, j'ai parlé surtout de la haute intelligentsia. Mais cela dit, votre question se rapporte, au fond, à ce qui est quand même l'une des activités centrales de la haute intelligentsia, à savoir la création de nouvelles valeurs. La haute intelligentsia, je dirais, elle se définit d'une certaine façon par son appartenance à l'avant-garde culturelle. Elle est dissidente par rapport au consensus culturel existant, par rapport aux orthodoxies à la fois politiques, esthétiques, et éthique quelquefois. Hein. Souvent, les grands intellectuels sont non-conformistes sur tous les plans, hein. Politiquement, intellectuellement, mais aussi sexuellement, etc. Oui. Donc, autrement dit, ils sont créateurs de valeurs nouvelles. Dans le comportement de Voltaire, dans le comportement de Foucault, jusque dans son comportement privé, d'une certaine façon. Il y a un effet de démonstration. Il y a un effet de démonstration qui, moyennant un délai de temps assez important, quelquefois, influence l'ensemble de la société. À la limite, je me demande si le mouvement gay aurait connu le destin qui est le sien si il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu Foucault et certaines de ses recherches sur la sexualité, sur le fait que sa vie privée n'était pas complètement privée, etc. Hein?
Si j'ai bien compris, vous faites appel à la destruction des dogmes, de toute attitude dogmatique, pour favoriser la vie intellectuelle.
Non, j'ai simplement dit que tout dépend comment vous prenez le terme dogmatique, si vous le prenez dans un sens positif ou dans un sens négatif. Si vous faites allusion à... si vous définissez le dogmatisme comme étant la croyance pure et dure à quelque chose qui n'est pas mis en cause, qui ne saurait être mis en cause, en somme, une forme d'orthodoxie considérée comme légitime et nécessaire, alors je dirais qu'effectivement, l'intellectuel, l'une de ses fonctions, peut-être la fonction de certains intellectuels, parce que implicitement, je dirais qu'il y a deux intellectuels, je l'ai dit quand même ça. Hein. Il y a les intellectuels, disons plutôt, disons gardiens de l'ordre établi, gardiens du dogmatisme, ceux qui sont les gardiens de la tradition. Et puis alors, il y a les dissidents, ceux qui sont les critiques. Donc, je ne dis pas, premièrement, je ne fais pas l'apologie de la destruction du dogmatisme. Je dis que certains intellectuels sont des négateurs du dogmatisme. Et je dis que, par ailleurs, en même temps, certains intellectuels font le choix d'être les gardiens de la tradition. On peut l'appeler dogmatisme si l'on veut.
Oui, donc vous faites appel, vous expliquez l'état présent, mais comment expliquer ou tentez-vous de prévoir l'avenir? On ne peut aller vers l'avenir que si l'on détruit ce qui gêne actuellement.
Prévoir l'avenir? Là, je suis désolé, mais vraiment, je peux pas. Non, je peux. Le sociologue peut simplement vous dire, essayer de vous dire le moins mal possible ce qu'il en est, comment il voit les choses. Il peut éventuellement essayer d'écrire ce qu'il perçoit comme étant des tendances. Par exemple, selon moi, Il y a une première tendance dans le monde actuel, c'est pas très original ce que je vais vous dire, il y a une première tendance qui est apparue en Europe, qui est ce que j'appelle le sécularisme, hein, c'est-à-dire une tendance à la diminution du rôle de la religion dans la vie publique. Bien, ça c'est une tendance. Et puis, en même temps, il y a une deuxième tendance qu'on observe même dans certains pays occidentaux, par exemple en Amérique. Hein, il paraît que jamais les églises n'ont été aussi pleines. Les Américains, dans les sondages, répondent en la grande majorité qu'ils croient en Dieu, qu'ils sont croyants. L'Amérique est très croyante. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se voit et c'est comme ça qu'elle se présente. Donc, il y a une tendance qui va à l'encontre de cette première tendance et qui est, je dirais, de non-sécularisation. Et même, alors, dans certains cas, on a même franchement une désécularisation hors d'Occident, par exemple des pays qui étaient relativement sécularisés. Hein, on pense en particulier à des pays comme l'Iran, à l'Irak. Enfin, l'Irak, là, c'est très problématique, mais l'Iran, par exemple, après la chute du Shah, c'est retraditionnalisé, néo-traditionnalisé. Donc, si vous voulez prévoir l'avenir, vous savez, même les plus grands intellectuels, ceux qu'on croyait les voyants extra-lucides de la classe des intellectuels, ils se sont trompés dans l'avenir. Hein, ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passerait après l'arrivée de Roménie à Téhéran. Hein. En tout cas, beaucoup se sont fait des illusions. Donc prévoir l'avenir, c'est un exercice très difficile.
Gérard Leclerc, je vous remercie.